Rodolphe Bringer, Le Revenant. À 3 kilomètres d'Orange, en pleine garrigue, le castel Chantecoucou dresse ses vieilles tours sarrasines, mirant ses créneaux, mâchicoulis et échauguettes au flot tumultueux du grand Rhône hurleur. C'est là que, depuis Guillaume au Cournet, de père en fils, demeure l'antique famille des Cagobrais, une des plus nobles du comtat venaissin. À l'heure actuelle, le château de Chantecoucou est habité par le marquis d'Antime, Jérôme Narcisse Hyacinthe Fabricien de Cagoret, dernier du nom. Ah, si les Cagoret du temps de Guillaume au Cournet, dont on voit les armures géantes dans la grande salle des gardes, revenaient dans cette vallée de misère, ils seraient déçus, je vous prie de le croire, en reconnaissant leurs descendants. Il en faudrait bien 5 comme Fabricien pour entrer dans l'armure de Gautier, premier marquis du nom de Cagobret. Imaginez un petit trotte-menu, pas plus haut que ça, avec une vieille face de pomme cuite, des yeux clignotants, un menton en galoche, un dos voûté, des mollets de coq de 15 sous, et les bras d'un ouistiti en bas âge. Tel était le marquis de Cagobret, et l'on comprenait bien que dans toute la noblesse du terroir, il n'eût pas trouvé, avant la quarantaine, une fille de sa condition qui voulût partager sa couche. Je dis avant la quarantaine, car il avait tout juste 43 ans et 6 mois, quand il épousa Marton de Langramuse, laquelle consentit à dormir dans le haut lit à colonnes blasonnées des marquis de Cagobret. Marton avait 18 ans, Benoît de Jean, un teint de lys et de rose, comme disent les poètes, une taille de Diane, des yeux de violette et une bouche qui vous donnait l'envie d'y manger des baisers. Parfaitement. Alors, c'est qu'elle avait fauté. Non, pas le moins du monde. Marton était innocente comme un jeune veau de 4 ans. Mais ne vous fatiguez pas les méninges, j'aime mieux vous dévoiler toute la vérité. Les Langramuse sont une famille presque aussi vieille que les Cagodrais. Seulement, ils sont dans la misère la plus complète. Fier comme Artaban, le vieux comte de Langremuse ne voulait donner sa fille Marton qu'à un homme de noblesse, et, ma foi, malgré la beauté de l'infante, les jeunes nobles du pays ne s'aventuraient pas à l'épouser, vêtus de sa seule beauté. « C'est bien, lui dit le comte de Langremuse. Si personne ne veut t'épouser, ben à 20 ans, tu entreras au couvent. » Ce n'était pas pour plaire à la belle Marton, et ma foi, elle préféra épouser Cagobret que de prendre le voile, se disant que si son mari était laid et déplaisant, quoique noble, elle trouverait bien à s'en consoler dans les bras de quelque roturier bien bâti. Et remarquez un peu les divines voix de la Providence. Il advint que Marton n'eut pas à se mésallier, car elle rencontra un amant aussi noble que son mari ou elle-même, dans la personne du jeune Gontran des Cagalouses. Encore une famille qui avait guerroyé aux croisades, ces Cagalouses. Seulement, plus heureux que les Cagobrais, leur descendance était digne des aînés, car c'était un gaillard qui n'avait pas froid aux yeux, et la petite marquise eût été la plus heureuse des femmes adultères, si par malheur une grande intimité n'avait régné depuis le siège de Saint-Jean d'Acre entre les Cagodrais et les Cacalouses. Je ne saurais vous dire la cause de cette brouille, car vous supposez bien que je ne m'y trouvais pas. Mais il fallait qu'elle fût d'importance pour avoir pu subsister ainsi depuis des siècles. Aussi vous pensez que Cacalouses n'était pas reçue au castel de Chantecoucou, mais peu importait. Ce descendant des croisés savait grimper aux fenêtres, et c'était dans la salle des gardes, pendant que le marquis dormait, que la petite Marton s'en venait rejoindre son amant. Cette salle des gardes, qui occupait toute une aile du castel, était immense, et l'on n'y venait jamais, car que fût-on venu y faire? Éclairée à grand-peine par de hautes verrières embuées de la poussière des siècles, elle n'était meublée que d'un canapé, mon Dieu, n'était-ce pas suffisant, d'une immense table et de toute la noble ferraille de la famille alignée contre les murs, la lance en arrêt ou l'épée au poing. Entre nous, c'était assez effrayant. Mais la petite Marton n'était pas peureuse, et puis n'avait-elle pas pour la défendre son Gontran, qui, pour n'être pas bardé de fer, ce qui était parfois gênant, n'en était pas moins brave. Et les deux amants s'aimaient tranquillement, quand un beau soir, une catastrophe se produisit. Le marquis de Cagodret, ce soir-là, ayant baisé au front sa jeune femme, s'était retiré dans sa chambre et, en attendant le sommeil, relisait la chronique de Cagoret quand son intendant vint heurter à sa porte et lui dit: « Monsieur le marquis, il y a des voleurs dans le château. « Hein? « Oui, en faisant une ronde, je viens d'apercevoir une lueur dans la salle des gardes. Oh, c'est pas la première fois que cela arrive d'ailleurs, mais il faudrait aller voir. Eh bien, allez-y. Oh, monsieur le marquis devrait nous accompagner. Il est le maître de séance et sa présence. » Le marquis se gratta la tête. Oh, il ne tenait pas à s'aventurer ainsi. Pourtant, noblesse oblige, mais il commanda: armez tous les serviteurs du château et qui nous accompagnent. Une demi-heure après, 30 à 35 cuisiniers, valets de pied, piqueurs de chiens, courtauds de ferme, se dirigeaient vers la salle des gardes, armés jusqu'aux dents, suivant l'intendant et précédant le marquis, qui se faisait un rempart de son corps. Et ils entrèrent dans la grande salle. Mais soudain, tous reculèrent épouvantés et, poussant des cris de terreur à la vue d'un chevalier armé, la lance en arrière et l'épée au poing, qui s'avançait vers eux en criant: Hardi, Suze, Vaïkaga! C'était le vieux cri de guerre des Cagobrets. Oh, je vous assure qu'ils ne demandèrent pas leur reste. Le marquis, qui se trouvait le dernier, avait bien été un peu foulé par la brusque reculade de ces gens, mais il osa s'en plaindre. Le lendemain, il conta l'affaire à son chapelain, qui l'assura que l'âme de ses aïeux avait besoin de prières. Il se chargeait de les dire. Et depuis ce jour, chaque fois que le vieux marquis, averti par son intendant, apercevait quelques lueurs dans la salle des gardes, il appelait ses serviteurs et chacun se mettait en prière dans le castel de Château-Coucou afin d'apaiser l'âme des aïeux. Pendant ce temps, je vous laisse à penser si la petite marquise Marton et Gontran de Cacalose perdaient leur temps de raison.